Génération Passepartout, épisode 6. Aujourd'hui, on jase quatrième trimestre ou comment préparer son postnatal optimal. C'est parti! Bienvenue sur Génération Passepartout, un podcast pour les parents, en devenir ou en plein dedans. Je suis Audrey Sénéchal, fondatrice de Petit Pas Portail Parents, au service de l'épanouissement des petits comme des grands. Repenser la naissance autrement, célébrer la petite enfance comme il se doit, mieux comprendre pour aligner vos choix, voilà ce qui vous attend. Pour une parentalité engagée et décomplexée, sans verser dans la culpabilité. Génération Passepartout, ta référence pour tout ce qui touche la périnatalité, la parentalité et la petite enfance. Bonne écoute! L'information contenue dans ce podcast ne remplace en aucun cas les conseils professionnels d'un médecin, d'une sage-femme ou tout autre professionnel de la santé. Il ne vise pas à donner de conseils précis ni individualisés et ne devrait pas être interprété de la sorte. Vous devriez toujours consulter un professionnel de la santé qualifié pour vos questions médicales personnelles avant de faire des choix éclairés. Dans le dernier épisode, j'ai abordé l'importance de se préparer à la naissance. Un événement qui est tellement intense, tellement transformateur, mais on va se le dire, à l'échelle de notre vie de parent, le moment de la naissance, ça dure à peu près le temps de cligner des yeux. Puis là, bien, on se retrouve parachuté dans le monde de la parentalité, un immense saut dans le vide. Hein? Il y a quand même de quoi avoir le vertige. Donc le postpartum, c'est une période tellement intense. Puis c'est vraiment difficile de figurer ou de comprendre avant d'être passé par là. Puis là, ça sonne un peu cliché, tout ça. Mais c'est quand même ce que de nombreuses nouvelles mamans rapportent, comme quoi elles ont entendu toutes sortes d'histoires, mais qu'on ne peut pas vraiment comprendre avant d'avoir les deux pieds dedans. À commencer par la fatigue, qui devient soudainement un euphémisme, qui te fait réaliser que toutes les fois où tu as dit que tu étais fatiguée dans le passé, ça n'avait rien à voir. Les douleurs, les saignements, le nouveau, complètement dépendant, qui a besoin de toi pour répondre à l'ensemble de ses besoins, parfois intenses, 24 heures sur 24, en plus de devoir apprendre à les comprendre, ces fameux besoins-là. Il y a aussi l'allaitement à gérer, avec parfois la culpabilité de ne pas y arriver, ou les biberons à gérer, avec parfois la culpabilité de ne pas allaiter. L'entourage qui vient catiner ta petite merveille sans trop se soucier de ce que tu vis parce qu'après tout, ben, ton bébé est en santé, donc tu es forcément heureuse, non? Même si c'est impossible de prévoir exactement le déroulement de ton quotidien avec un nouveau bébé sur les bras, je pense que c'est quand même préférable d'en discuter avant son arrivée. En tout cas, à entendre le nombre de nouvelles mamans élever la voix à propos du manque d'informations autour du quatrième trimestre, j'ose croire que c'est quand même d'une grande importance. D'ailleurs, il fut un temps où on encourageait et on attendait des personnes qui venaient d'accoucher qu'elles ne fassent pas grand-chose d'autre que se reposer, que de récupérer puis d'allaiter le bébé. C'était ce qu'on appelait le « lying in » ou « confinement postpartum ». Bon, le terme « confinement » a certainement pas la cote depuis 2020, mais on parle quand même ici d'un temps de repos, un temps de convalescence pour maman et pour bébé pendant les jours et les semaines qui suivaient l'accouchement. Il y a même certains pays, certaines cultures qui honorent encore cette période de repos qui peut durer de 3 à 6 semaines après l'accouchement. Donc, ce 3 à 6 semaines-là, c'est à peu près le temps dont ton corps a besoin pour guérir physiologiquement, à peu près le moment où on va prévoir aussi un suivi postnatal et où on commence tranquillement à prendre le rythme sur notre vie de parent. Si on se transporte chez nous maintenant en Amérique du Nord, et on voit que les femmes réclament de plus en plus cet espace-là et ce temps de repos. Certains vont l'appeler le quatrième trimestre ou encore le mois d'or, où on parle souvent des 40 jours suivant l'accouchement. D'autres vont recommander fortement aux parents de cultiver leur village, donc qui se trouve être un réseau de soutien de personnes plus ou moins proches qui peuvent vous venir en aide pendant la période postpartum. Puis là, ben, qu'on parle de repos, de quatrième trimestre ou de village, la période postpartum est, à mon avis, cruciale pour le bien-être. que ce soit le bien-être de la femme qui vient de donner naissance, mais aussi le bien-être de bébé et celui du ou de la partenaire. Pendant les semaines de transition entre l'accouchement et la parentalité, donc littéralement où on est parent nous aussi, il se passe quand même des modifications fascinantes, autant au niveau psychologique, au niveau physique, mais aussi émotionnel. Puis c'est pour ça, à mon avis, qu'il est essentiel de se préparer à la période postnatale avec la même intention, avec le même soin puis le même dévouement pour lesquels on se prépare pour la grossesse et pour l'accouchement. D'autant plus qu'il y a souvent un sentiment d'abandon et de solitude qui peut être assez intense en postnatal. Donc, après avoir eu un suivi très, très fréquent, j'oserais dire très rigoureux pendant toute la grossesse, bien, autant c'est rassurant pour les parents de savoir que les professionnels sont là pour voir à leur bien-être puis à celui de bébé pendant la grossesse, autant le sentiment de vide est assez omniprésent au moment du retour à la maison. Finalement, j'ai quand même envie d'ajouter le fait que, informé ou non, la réalité du quatrième trimestre est assez choquante. On n'est jamais assez bien préparé aux nuits trop courtes, à l'enchaînement d'émotions qui a ni queue ni tête, au périnée enflé ou encore au mamelon gercé. Mais la préparation va permettre aussi de diminuer ses attentes et par le fait même de diminuer les déceptions. Alors, je vous propose ici 5 éléments clés pour préparer ton postnatal optimal. Et là, on s'entend que je me limite à 5 parce que la liste pourrait être beaucoup plus longue. Élément clé numéro 1, repos, repos, repos. C'est difficile de prévoir comment ton accouchement va se passer et comment tu vas te sentir par après. Peut-être comblé, exténué ou encore un mélange de tout ça. Dans tous les cas, ça demande une énergie physique, une énergie émotionnelle considérable pour faire sortir un bébé de ton corps. Donc, le mot d'ordre pour les premières semaines, c'est repos. Je sais, si tu es du genre super active, que tu as besoin de bouger pour ta santé mentale, ça t'enchantera pas vraiment ce que je te dis maintenant. Mais c'est absolument essentiel. Même si tu ne penses pas avoir besoin de quelques semaines de repos, prévois-les de toute façon. Comme ça, ta seule préoccupation sera de nourrir bébé, répondre à ses besoins et récupérer. En plus, il y a souvent cette fameuse lune de miel où maman se sent top shape, prête à sillonner tout le quartier avec bébé en poussette avant de flancher 2 jours plus tard sous un torrent de larmes incontrôlables. Je sais de quoi je parle. Ici, donc, je t'invite à résister à l'envie de trop en faire, même si tu te sens en pleine forme. L'épuisement maternel est bien réel, puis il n'arrive pas juste aux autres. Donc, ton corps en postnatal est en plein processus de guérison. Il travaille probablement très fort à établir ta production de lait, en plus de devoir apprivoiser la mise au sein, trop souvent idéalisée. Tu vas passer par tout un éventail d'émotions jusque-là sous-estimées et toutes sortes de changements physiologiques continuent à s'opérer sans même que tu en sois consciente. Ça veut dire qu'il va falloir demander de l'aide. Ce qui m'amène à l'élément clé numéro 2. Demander de l'aide et accepter l'aide qui t'est offerte. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est particulièrement difficile pour plusieurs. Puis là, je vais m'inclure là-dedans à 100%, mais c'est difficile, surtout dans cette période de vulnérabilité-là où, justement, on a le plus besoin d'aide. Puis il y a plusieurs façons de le faire. Donc, ça commence par réfléchir à ce que vous pourriez avoir besoin pendant les premières semaines suivant l'accouchement. Ça peut être des repas préparés, quelqu'un pour venir faire le ménage, votre lavage, la vaisselle. Donc, de déléguer des tâches à la famille puis aux amis avant même la naissance de bébé. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais surtout, ayez pas peur de demander. En général, les gens veulent aider. Il suffit de les guider pour qu'ils vous aident comme vous souhaitez être aidé. Ça implique aussi que tu peux demander aux proches qui viennent te visiter de venir aux heures qui te conviennent le mieux, en plus de ne pas te gêner à leur demander de faire une course ou deux en chemin au besoin. Ça va donc te demander, avant l'accouchement, d'établir tes limites avec ta famille, tes amis. Donc, dans le meilleur des mondes, on veut de la visite aidante. De la visite qui apporte un repas, de la visite qui fait la vaisselle, et pas de la visite où tu dois t'habiller, te maquiller, puis faire le ménage des deux dernières semaines pour que tout soit propre. Donc, ça permet aussi d'avoir du support pour le partenaire, finalement. Donc, plutôt que l'ensemble des tâches de la vie quotidienne repose soudainement sur le partenaire, bien, on souhaite aussi que le partenaire puisse supporter maman et supporter bébé. Donc, bénéficier de l'apport des proches aussi. Parenthèse ici, justement, sur l'importance d'inclure l'autre parent. Particulièrement parce que durant toute la grossesse, puis même pendant l'accouchement, c'est quand même difficile pour l'autre parent d'être vraiment 100% impliqué. Mais en postnatal, on se retrouve devant une belle grande fenêtre d'opportunité pour pouvoir s'impliquer réellement. C'est donc essentiel à ce moment-là d'inclure l'autre parent dès les premières heures de vie de bébé pour construire ensemble votre nouvelle identité de parent. Donc, c'est le moment où tout est à faire, où il n'y a rien qui est encore cristallisé. Donc, c'est vraiment l'opportunité idéale pour bâtir tranquillement un équilibre, pour repenser la parentalité, puis s'éloigner des conventions de genre de notre société. Donc, à mon avis, c'est un moment charnière qui met la table pour une vie de famille à votre image, parce qu'au final, c'est pas juste bébé qui vient de naître, mais c'est toute la famille aussi. Puis ça, bien, ça se prépare aussi en prénatal, parce qu'au moment de la naissance de bébé, les habitudes vont se prendre tranquillement, la fatigue va embarquer, puis vous allez avoir à naviguer toute une montagne russe, les hauts, les bas de la parentalité, en même temps de passer à travers une grande quête d'identité et de redéfinition de vos rôles. Bon, fin de la grosse parenthèse finalement. J'en reviens aux fameuses limites. Je sais que ça peut être difficile de fixer ses limites. Donc, tu risques de heurter peut-être des sentiments en cours de route. Donc, c'est à voir. Des fois, c'est peut-être même plus facile de fixer des limites assez strictes au départ et de les assouplir au fur et à mesure que tu commences à maîtriser la situation plutôt que d'imposer ou de créer des limites sur le moment quand tu es dans un état de plus grande vulnérabilité. C'est donc l'occasion parfaite pour discuter aussi au sein du couple de votre vision de la vie de famille. Donc, autant la place de vos familles respectives, donc quelle place ils vont occuper dans votre nouvelle vie familiale, de discuter de vos limites, de votre vision de l'allaitement, par exemple, et toutes sortes d'autres, peut-être, éléments au niveau de l'éducation ou de comment vous entrevoyez votre rôle parental. Ça peut-être éviter quelques mauvaises surprises quand vous allez être les deux pieds dedans, en plein, en postpartum, sous le poids de la fatigue et de vos fluctuations émotionnelles. Donc finalement, je pense que c'est important de garder en tête aussi que votre village ne se limite pas seulement à votre famille proche et vos amis. Donc la réalité du quotidien fait que si tout le monde travaille autour de vous, si votre famille est éloignée, n'habite pas dans la même ville que vous, bien, il faut repenser un peu les limites de ce village-là. Donc, votre village peut s'étendre plus largement à votre communauté où il y a quand même plusieurs ressources qui existent, comme certains services de relevail, comme des ressources périnatales communautaires ou encore des doulas postnatales qui peuvent vous aider à faciliter cette transition-là vers la parentalité. Élément clé numéro 3, dresse ta liste de ressources aux besoins. Le mommy brain, c'est pas une joke. Pour vrai, si tu peux déjà préparer en amont, avoir un papier ou avoir un carnet sous la main où tu as rassemblé ta liste de professionnels de la santé à un seul endroit, ça va t'éviter de perdre énormément de temps et d'énergie à chercher quelqu'un pour hier sur Google. Donc, crois-moi, la tâche la plus simple peut devenir insurmontable quand tu es en train toi-même de surmonter les tétés groupées, peut-être même les douleurs de tranchée, donc les fameuses contractions utérines qui continuent après l'accouchement dans le but d'évacuer les lochies, donc les saignements. Alors, je t'invite à inclure sur ta liste peut-être les coordonnées de ta clinique médicale, donc pour avoir un lien direct là, rapidement. Ça peut être une marraine d'allaitement, une consultante en lactation, ton pharmacien, t'as un tout groupe de soutien qui te semble pertinent. Puis là, une panoplie de professionnels de la santé aussi, donc ça peut être physio-périnéal, ostéo, masso, chiro, sexologue ou des spécialistes pour tout problème médical particulier. Puis là, ça ne veut pas dire que tu auras besoin de toutes ces ressources-là, mais tu auras au moins sous la main des références, des contacts directs qui vont t'éviter un temps fou. Fait que tu vas être contente d'avoir fait ça avant l'accouchement. Élément clé numéro 4 maintenant, prépare ton environnement pour l'arrivée de bébé. Donc, l'idée pour un postnatal optimal, c'est d'avoir le plus de confort possible et le plus de fluidité possible pour favoriser le repos encore une fois. Donc, ça revient à notre élément clé numéro 1. Puis ce confort-là, mais il passe beaucoup par la préparation de ton environnement en prénatal. Parce que quand tu viens d'accoucher, ben tu fais avec l'environnement que tu as. Donc là, je te parle pas du choix de couleur dans la chambre de bébé, ni de la marque de ta poussette ou de ton fauteuil berçant, mais plutôt de penser ton espace pour qu'il soit le plus fonctionnel possible. Puis, tu sais, au début, même pas besoin d'une chambre juste pour bébé, toute meublée avec toutes sortes de technologies à batterie. À mon avis, on matérialise encore beaucoup trop l'arrivée des bébés, ce qui a tendance à nous donner un faux sentiment de sécurité. La réalité, c'est que bébé n'a pas vraiment besoin de trucs high-tech, il a plus besoin de proximité, de sécurité et de beaucoup de toucher. Donc, un des besoins constants de bébé, c'est la proximité, alors que toi, en postnatal, un de tes grands besoins, peut-être que tu ne le sais pas encore, mais ça va être le repos. Évidemment, tu vas bouger un peu chaque jour, mais peut-être que de repenser ton environnement, ça va t'éviter de faire les 100 pas dans l'escalier avec les bras chargés. Puis ça, ben, ça commence par l'organisation de ton espace pour supporter le dodo de proximité. Donc, comment tu peux planifier ton espace, ta chambre à coucher pour que la nuit, tu aies à te déplacer le moins possible pour faire boire bébé et pour le changer. Donc, ça demande d'aménager ton espace pour qu'à chaque soir, quand tu vas aller au lit, tu vas t'assurer d'avoir des couches de rechange à portée de main, des petites serviettes humides, peut-être une lampe pas trop loin où tu peux tendre le bras pour ouvrir la lampe, puis t'éclairer la nuit avec un éclairage doux. Donc, préparer ton environnement, ça commence par préparer ton approche de la nuit, préparer ton repos en postnatal immédiat, puis préparer la proximité dans l'espace de la chambre à coucher. Ça demande aussi de penser aux espaces de vie communs, comme la cuisine, le salon, pour penser à des endroits où tu vas pouvoir déposer bébé en sécurité, peut-être prévoir une écharpe de portage même, et penser aux endroits où tu vas pouvoir t'installer pour faire boire bébé. Donc, les chances sont grandes qu'au fil du temps, tu finisses par faire boire bébé un peu partout, n'importe où, mais les premiers temps, ça vaut la peine de viser le confort en installant une chaise, un fauteuil, plusieurs coussins au besoin pour remonter bébé, pour être sûr que ta position à toi soit optimale aussi. Donc, l'idée, c'est que tu sois confortable pour répondre aux besoins de bébé. Élément clé numéro 5, prépare ton kit de base avec quelques articles pour la guérison postpartum. Puis là, je réalise que je me suis limitée à 5 éléments clés, mais je savais que je pourrais vous en parler pendant des heures. Donc, soyez assurés qu'il y aura d'autres épisodes pour aller un petit peu plus en profondeur sur différents aspects. Donc, dépendamment de ton accouchement, Et tu vas peut-être avoir besoin d'articles particuliers, entre autres pour les soins de plaie du périnée ou pour la cicatrice de césarienne. Dans tous les cas, tu vas saigner, tu vas avoir des lochies qu'on appelle et tu auras besoin de soit des serviettes super abondantes ou encore des couches. Puis là, ici, c'est vraiment une question de confort, une question de choix personnel. Ça se peut aussi que la simple idée d'aller à la toilette t'effraie au plus haut point. Tu pourrais aimer avoir sous la main une petite bouteille pour les soins du périnée, un peu comme un bidet portatif finalement qui va t'aider à nettoyer la région, puis à avoir des barbouillettes douces à proximité pour pouvoir éponger doucement la vulve, le périnée, plutôt que de frictionner avec le papier de toilette. Puis comme la constipation est assez fréquente en postnatal, bien, d'abord, ça demande de bien s'hydrater, donc ça va aider pour l'élimination des sels. Souvent, avec l'allaitement, la soif est augmentée aussi, donc ça va être important de bien s'hydrater et de ne pas hésiter à utiliser au besoin un émollient, comme le Colas, par exemple, pour éviter d'avoir à pousser à chaque fois que tu vas à la selle. Ça se peut aussi que le bain de siège devienne ton meilleur ami pour soulager les inconforts au périnée, particulièrement dans les premiers jours qui suivent l'accouchement. Finalement, tu peux aussi planifier d'avoir sous la main tout ce qu'il te faut pour faire des pads sécules, qui sont comme des popsicles pour le périnée après l'accouchement, et tu peux même en préparer quelques-uns à l'avance. Donc, les pads sécules, c'est comme prendre une serviette hygiénique jetable, idéalement organique, sans produits chimiques, ou encore des bandes, de venir découper des bandes de tissu souple, puis les badigeonner de gel d'aloès pur et d'eau d'amamélis. Je vais t'en reparler d'ailleurs dans le segment coup de cœur avec le lien vers une recette sur le blog des mauvaises herbes. Donc, bref, après ça, on envoie tout ça au congélateur, puis en postnatal immédiat, tu peux venir le déposer directement sur la vulve, qui a eu déchirure ou non. Bon, comme tu le sais, je te l'ai dit, j'ai dû me limiter parce que tu n'as pas toute la journée pour m'entendre parler, mais je te réserve d'autres épisodes prochainement, entre autres sur la matrescence ou le fait de naître mère, sur la rééducation en pré- et en postnatal, sur la reprise de l'activité physique et sur le blues postpartum. J'espère quand même t'avoir éclairé un peu sur comment te préparer aux premières semaines qui t'attendent avec bébé. Toujours dans le but de t'informer, bien évidemment, et non de t'effrayer. Dans le segment Passe vite, aujourd'hui, je te parle d'un e-book que j'ai conçu pour t'accompagner dans ta période postnatale. Donc, ce fameux 4 à 6 semaines où tu te retrouves un peu dépourvu, seul, sans avoir eu de suivi postnatal encore, et avec ton flot d'émotions à gérer. Ce guide se veut donc un petit coup de pouce pour t'accompagner dans ta récupération postnatale et te permettre de penser un peu à toi. Donc, tu vas y trouver des conseils pratiques et des exercices pour soulager, entre autres, les inconforts et reprendre tes activités graduellement, tout en prévenant des symptômes indésirables. Et je te rappelle que si tu es enceinte actuellement, notre toute nouvelle formation Connaissance comprend un module complet sur le quatrième trimestre. La prévente est d'ailleurs actuellement en cours jusqu'à demain, mardi le 25 octobre à minuit. Alors, tu peux utiliser le code promo COPROMO20 pour bénéficier de 20% de rabais avant le lancement officiel de la formation ce mercredi 26 octobre. Tu vas retrouver d'ailleurs dans les notes du podcast le lien pour recevoir ton e-book gratuit et celui pour avoir tous les détails sur notre préparation à la naissance. Le coup de cœur que je te partage aujourd'hui, c'est la recette de padsicles, donc les fameux popsicles pour le périnée en postnatal. Et c'est une recette qu'on retrouve sur le blog des mauvaises herbes. Donc vraiment une recette assez simple que tu auras sous la main au congélo quand tu en auras le plus besoin. Je te laisse le lien vers la recette dans les notes du podcast. Pour le segment mot de passe de cet épisode, j'ai posé la question: comment tu t'es préparé pour ton post-natal et si c'était à refaire aujourd'hui pour une autre naissance, pour un autre post-natal, qu'est-ce que tu ferais différemment?
Préparer le quatrième trimestre ou le postnatal, c'est pas une chose que je trouve très facile. On ne sait pas quel type de bébé on va avoir ni comment nous on va s'adapter à la présence d'un nouvel petit être dans notre vie. Donc, je pense que c'est peut-être plus winner et moins anxiogène pour les nouveaux parents de se dire qu'on va y aller au jour le jour sans trop préparer de choses pour bourrer le congé de maternité. Oui, tu sais, c'est cool de cibler des ateliers auxquels on veut participer, des petits cours maman-bébé, ce genre de choses-là. Mais à l'inverse, il faut laisser place à l'inconnu, il faut faire de la place pour les imprévus aussi.
Merci pour ton écoute, vraiment. Quand on démarre un projet comme celui-là, on ne sait jamais vraiment comment ça va être reçu. Puis ça fait chaud au cœur de recevoir vos commentaires, de savoir que vous êtes à l'écoute, puis de savoir surtout qu'on peut faire une petite différence. Alors, on se retrouve dans le prochain épisode pour jaser activité physique pendant la grossesse. Manque pas ça!